Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, Charles, le sommaire du jour.
Le bras de fer se poursuit à l'équipe. France 2 va célébrer la musique, le bilan des ventes d'albums 2020 et des anges chassés de la Réunion.
Et on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé.
Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la quatrième place. Déception pour Opération Renaissance, la nouvelle émission de Karine Le Marchand consacrée à l'obésité sur M6. 1 900 000 personnes seulement ont suivi son lancement, soit 8,4% du public et un très moyen 16% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. C'est TF1 qui est en première position avec la suite de Sam saison 5 en hausse à 4 500 000 téléspectateurs. La part d'audience atteint 20,2% sur l'ensemble du public et un très joli 30% sur les femmes de moins de 50 ans. Deuxième, France 2 pointe à 2 400 000 téléspectateurs pour la suite de la série britannique The Bay saison 2, soit 10,3% du public. Et France 3 est troisième avec Secret d'Histoire à 2 100 000 téléspectateurs et 9,3% de part d'audience.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une première dans l'histoire du journal L'Équipe.
Oui, ça fait 4 jours qu'il ne paraît pas. 4 jours d'affilée, ça n'était jamais arrivé. Pas de quotidien sportif donc encore aujourd'hui, que ce soit en ligne ou dans les kiosques.
Alors comment expliquer cette situation?
Ce qui est en cause, c'est un plan de restructuration. Il prévoit la suppression de 40 à 50 emplois, soit près de 15% des effectifs. Un plan indispensable selon la direction, compte tenu du difficile contexte économique et de la baisse du nombre de compétitions sportives. Un plan en revanche incompréhensible pour les salariés. Les compétitions sportives devraient revenir cette année et l'an prochain. Le journal va donc avoir besoin de tout le monde, selon eux. Des salariés qui rejettent ce plan, ils semblent très mobilisés. 80% d'entre eux suivent le mouvement de grève, selon les syndicats. Le mouvement pourrait donc durer, la situation apparaît bloquée. La direction du journal refuserait de discuter du bien fondé de ce plan, selon le Figaro ce matin.
C'est le 12 février que France 2 va diffuser les prochaines victoires de la musique.
Et ce sont Stéphane Bern et Laurie Tillman qui seront aux commande un duo inédit dont la directrice des divertissements de France Télévisions, Alexandra Redamiel, a vanté les mérites au micro de Louise Bernard.
Dans les duos, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est des personnalités différentes et ça permet finalement d'envoyer des messages aussi différents. C'est aussi vivant. On a besoin d'avoir une télé de l'interaction. On n'a pas besoin d'avoir une télé monotone et en tout cas qui répète toujours la même chose. Stéphane Bern est un ambassadeur de la culture, donc je crois qu'il a un rôle essentiel en ce moment en tant qu'animateur et en tant que passeur de messages. Et puis Laurie, c'est une valeur montante de France Télévisions qu'on a vu dernièrement sur la fête de la chanson française, mais aussi c'est elle qui fait la fête de la musique. Viens, je t'emmène sur France 3. Elle réussit à créer avec les artistes des moments uniques. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'offrir pour la première fois ce duo qui ne s'est pas encore rencontré devant la télévision.
Les victoires 2021 viendront clore une année très difficile pour l'industrie musicale, une année sans concert ou presque, et qui a des conséquences forcément sur la cérémonie. Les catégories révélation scène et meilleurs concerts sont supprimées. Mais le patron des victoires, Romain Vivien, nous l'a assuré, le live aura plus que jamais sa place pendant la soirée.
Il y aura des séquences dédiées, spéciales, tout au long de l'émission, qui vont mettre à l'honneur le spectacle vivant et le live, réunir des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, dans des conditions de live, avec un grand orchestre, où on va aussi présenter les rendez-vous de l'année 2021 qui les concerne sur le live, comme il va pouvoir quand même un petit peu exister, en essayant un peu de se projeter, en espérant des bonnes nouvelles. C'est un message de soutien, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir. C'est de dire que malgré tout ce qui se passe, et on l'a bien vu d'ailleurs, il n'y a jamais eu autant besoin de musique.
Alors parmi les nouveautés de cette édition 2021, une victoire sera remise au titre le plus streamé, le plus écouté en streaming de l'année, tandis que la catégorie révélation scène sera remplacée par deux catégories, révélation masculine et féminine. Un grand concert pour présenter d'ailleurs tous les artistes nommés dans ces deux catégories sera diffusé le 26 janvier sur France 2 après Taratata.
Et c'est dans ce contexte que le Figaro révèle ce matin le classement des albums les plus vendus en France en 2020.
Oui, les plus vendus et les plus écoutés en streaming pour être précis. En tête de cette liste, l'album Versus de Vita et Slimane avec un peu plus de 400 000 unités. Le disque avait déjà cartonné en 2019 et cumule à ce jour près de 700 000 unités. Il faut dire que les ventes de l'album, qui sont surtout en physique et notamment dans les supermarchés, ont été significativement boostées par une réédition avec 10 inédits. Elle est parue en octobre dernier et elle inclut notamment le single « Ça ira ». Les rappeurs qui sont extrêmement écoutés en streaming figurent en très bonne place dans ce palmarès. Nino est deuxième avec près de 300 000 ventes pour MILS3 devant Maes à 275 000 ventes combinées. Le gros succès du rap, qui est un milieu très masculin, explique sans doute en partie la très faible représentation des femmes dans le classement. Seules 4 artistes féminines se hissent parmi les 30 meilleures ventes de 2020. Outre Vita, bien sûr, c'est la Belge Angèle qui s'en sort le mieux avec un peu plus de 200 000 unités pour son album Brawl, qui était paru en 2019 et qui cumule à ce jour plus de 700 000 exemplaires vendus.
Le focus programme du jour, c'est le documentaire La Cravate, diffusé ce soir sur Canal+, bande annonce.
Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
J'ai l'impression de lire un livre, mais tu sais déjà tout ce qui se passe dedans.
Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux. Et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle.
On pense pas pareil, tu le sais bien.
Bah oui, je le sais bien.
Dans La Cravate, les réalisateurs Étienne Chailloux et Mathias Théry dressent de manière originale le portrait d'un jeune militant du Front National en pleine campagne présidentielle en 2017. Il s'appelle Bastien, il a 20 ans et il commence à monter dans le parti, mais n'est pas encore rodé à la communication politique, ce qui permet d'avoir un aperçu assez authentique de ce qu'il pense et de ce qu'il vit. Alors je vous parlais d'originalité parce que les deux réalisateurs ont eu une idée brillante. À côté du documentaire, disons classique, commenté par une voix off, ils ont fait relire le texte de cette voix off à Bastien et on le voit la commenter et la corriger. Dans ces séquences, le jeune va encore plus se confier et révéler des choses complètement inattendues.
Et pourquoi ça s'appelle La Cravate ?
Alors vous pensez bien qu'on a posé la question. Le co-réalisateur Mathias Théry l'a expliqué à Louise Bernard.
C'est l'accessoire du politicien, on va dire. En tout cas, c'est le symbole pour nous d'un parti qui essaye de se rendre le plus acceptable possible, le plus présentable possible peut-être. Donc c'est la dédiabolisation en gros. Et c'est aussi un objet auquel Bastien a un rapport particulier, puisque dans le film, il passe de petit militant de campagne à jeune cadre du parti, donc il enfile la cravate et le costume.
La Cravate d'Étienne Chailloux et Mathias Théry, c'est ce soir à 22h55 sur Canal+.
Le tournage de la prochaine saison des Anges de la télé-réalité est annulé.
Oui, toute l'équipe de production et les candidats vont quitter la Réunion où le tournage devait débuter hier. C'est la société de production La Grosse Équipe qui a pris cette décision. Elle estime que les équipes et les candidats ne sont plus en sécurité sur place. L'adresse de la villa où devait avoir le lieu de tournage, a fuité selon Le Parisien. Elle a été donnée sur les réseaux sociaux après une altercation qui a eu lieu ce week-end. Des candidats des Anges, je vous en parlais hier, sont accusés d'avoir agressé des clients de leur hôtel. Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue dimanche, puis relâchés hier. Mais l'altercation a provoqué un mouvement de colère sur les réseaux sociaux et des appels à ce que le tournage soit annulé.
Ben donc c'est chose faite. Et on termine ce journal avec le joli démarrage de Lupin, la nouvelle série Netflix avec Omar Sy.
Et oui, la série s'est hissée en tête des programmes les plus vus sur Netflix en France, mais pas seulement. Elle s'est aussi hissée en tête programme de Netflix les plus vus dans le monde entier. Au-delà de ça, on a aussi un joli succès critique, puisque les 7 critiques américaines qui ont commenté cette série lui ont offert 100% d'opinions positives. Et on a un score de 86% d'opinions positives des spectateurs, d'après l'agrégateur de critiques américains Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes, les tomates pourries. Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve demain. L'infomédia, c'est également à retrouver sur la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr.